parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 16 novembre 2017. Vous êtes en compagnie de Laurent. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Delphine.
Et nous allons vous parler de plein de choses ce soir, mais paraît que c'est le Beaujolais nouveau ce soir. Nous, ça ne nous émeut pas beaucoup. Alors vous n'êtes pas censé vous bourrer la gueule, car c'est dangereux à la santé de trop picoler. En plus, vomir son Beaujolais, c'est pas classe, il faut bien le dire. Quand on voit les litres engloutis par les Japonais, on se dit que le goût, c'est effectivement une affaire à géographie variable. Mais pendant que certains établissements préparaient cette soirée qui doit faire teinter le tiroir caisse, de braves engagés, mécontents et mécontents, était dans la rue pour continuer à dire non, non, on n'en veut pas des idées, des projets de ce président des riches du patronat. Bon, on remarquera que les autres présidents étaient déjà du côté des riches et du patronat, donc c'est une appellation un petit peu usurpée peut-être, hein, quand même. Alors on parle de milliers de participants, je vais pas vous donner de chiffres, un peu plus, un peu moins, finalement on s'en fiche. Les gens étaient toujours là, mais pendant que nous nous battons pour conserver une part des richesses que nous créons, parce que oui, nous en sommes à nous battre pour récupérer notre part de richesse, même pas à nous battre pour répartir cette richesse équitablement, mais nous nous battons pour l'instant pour tenter d'en garder un bout. Donc, comme je vous le disais, et pendant que nous nous battons, d'autres se plaignent d'être pointés du doigt alors qu'ils sont dans le respect des règles, paraît-il. Certes, des règles pas morales, mais des règles tout de même qui permettent de jouer avec les fiscalités des pays. Avec ces Paradise Papers, on a encore eu notre lot de révélation de telle personne, de telle entreprise qui détourne le système à son avantage pour éviter de répartir cette fameuse richesse qui nous échappe à nous, les braves gens d'en bas. Alors c'est le cas de monsieur Bernard Arnault, hein, que nous apprécions tout particulièrement dans cette émission. Je vous rappelle, hein, le patron du groupe LVMH, excusez-moi. Ce mercredi, le Canard Enchaîné a révélé que monsieur Arnault a fait retirer des pages de publicité des marques de son groupe jusqu'à la fin de l'année dans le quotidien Le Monde, suite à la une du Monde qui avait titré sur les avoirs offshore du PDG de LVMH. Ouioui, ça faisait mal, hein, le journal s'est penché sur les montages financiers du groupe de monsieur Arnault dans plusieurs paradis fiscaux. Bah oui, parce que quand on est riche, on a plusieurs possibilités pour faire joujou avec la fiscalité, et le journal est allé jusqu'à montrer photo satellite à l'appui la propriété londonienne de monsieur Arnaud, propriété détenue grâce à une société écran basée à Jersey. Monsieur Arnaud a fait appel, d'après Le Monde, à au moins 8 cabinets de conseil différents pour localiser ses actifs dans 6 paradis fiscaux différents. Qui d'entre vous, qui d'entre nous peut se payer une seule de ces boîtes pour camoufler sa jolie propriété à Londres? On se doute que Monsieur Arnaud en a plusieurs de jolies petites propriétés. Alors, de son côté, le groupe LVMH a réfuté une coupure totale de ses publicités dans le quotidien, mais indique mener une réflexion pour réduire ses investissements dans les médias classiques au profit des médias digitaux, je cite. Bon, on peut simplement dire que cette annonce du canard enchaîné a fait désordre, hein, on s'en rend bien compte, et que le groupe LVMH essaye un petit peu de sauver la mise. Bon, il faut dire que ça représentait, d'après le canard, 600 000 euros de pertes, comme quoi, faut mieux être un média, un journal, une radio sans pub, c'est bien plus efficace, parce que même si certaines rédactions peuvent parfois sortir ce genre d'infos, ce genre de révélations, c'est parce que soit on a un actionnaire qui n'est pas ami-ami avec la personne qui est visée, soit parce que c'est quand même une sortie courageuse bien rare, hein, de la rédaction. Alors moi j'ai quand même été vérifié, hein, dans Le Parisien, Les Échos, propriété du patron d'LVMH, si on avait parlé un petit peu de cette affaire. Oui, mais on lui donne toujours la parole quand même à monsieur Arnaud, il faudrait quand même pas trop se fâcher avec le patron. Et puis pendant que vous étiez dans la rue, peut-être, hein, aujourd'hui, il y en a d'autres, des riches qui s'éclatent et qui en 19 minutes achètent aux enchères un tableau de Léonard de Vinci, Salvator Mundi, pour combien ? 450 millions 300 000 dollars, commission, frais et taxes compris quand même, hein, il faut le dire, ça fait 382 millions d'euros à peu près. Donc comme quoi, le pognon, il y en a, on l'a toujours dit, on va le répéter, faut juste qu'on le récupère. Alors en attendant la grève générale que certains et certaines espèrent, mais ne voient pas trop arriver, il faut quand même bien le dire, on va vous causer des problèmes des autres dans cette émission. Laurent va commencer avec le Zimbabwe. C'est un peu l'actualité de cette semaine. On reviendra sur ce qui se passe au Liban. On parlera aussi de la Pologne. Et puis nous irons faire un tour des barbares, hein, vous savez, de ces États qui pratiquent la peine de mort. Nous irons aux États-Unis d'Amérique. Laurent nous parlera du travail qui tue, parce que ça aussi on en parle souvent, mais c'est toujours le cas malheureusement. On parlera des profiteurs avec Castorama cette semaine. Et puis des affaires de Monsieur Colomb et de Monsieur Wauquiez. Et nous terminerons, nous l'espérons, avec un petit peu d'énergie et d'environnement.
Oui, alors on va essayer de reparler un petit peu du Zimbabwe en refaisant un petit point de cette situation ultra confuse. Alors même si les Zimbabwéens sont réveillés ce matin face à un avenir toujours incertain, et c'est le moins qu'on puisse dire, il semble quand même qu'ils soient prêts à tourner la page de Robert Mugabe, un président historique éternel presque, hein, puisqu'il s'accroche au pouvoir indéfiniment, mais plus maintenant, a priori, et vraisemblablement, tout le monde espère que l'intervention de l'armée contre Mugabe mettra un terme à ces 37 années de règne de cet ancien héros de l'indépendance qui n'est plus héros que de lui-même. Alors ça a fait un petit peu jaser et fait réagir en Afrique, mais pas forcément comme on pouvait l'espérer. Il y a le président ghanéen, Alpha Condé, qui est aussi président de l'Union africaine, qui a dénoncé ce qui apparaît comme un coup d'État, dit-elle. C'est tout. Alors, si ils ont exigé le rétablissement de l'ordre constitutionnel, bref, ils soutiennent, quoi qu'il arrive, Robert Mugabe. Jacob Zuma, lui, président plus très respecté d'Afrique du Sud, pareil, il soutient son ami Mugabe, du coup il demande un rétablissement de la situation constitutionnelle. Aussi, l'Organisation Régionale d'Afrique Australe, le SADC, a demandé qu'il y ait une réunion d'urgence, donc elle a eu lieu aujourd'hui, on sait pas quoi, mais pour faire peut-être quelque chose. Alors, grosso modo, les militaires, de leur côté, ont essayé de faire croire depuis hier que c'était pas du tout un coup d'État. Tout ça pour essayer de calmer l'Union africaine et la SADC. Alors, il faut savoir qu'ils sont un peu coincés, puisque Robert Mugabe, malgré tout, jouit encore d'une certaine popularité dans la population. Donc, ils essayent de négocier avec lui pour faire une espèce de phase de transition un petit peu douce. En tout cas, c'est ce qui se dit actuellement. Ça reste un coup d'État quand même, mine de rien. Le sort de Madame Mugabe Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On sait qu'elle a d'énormes ambitions présidentielles. Donc elle a 52 ans. Et c'est elle, en fait, qui est quasiment à l'origine. Alors, c'est pas elle qui est à l'origine du coup d'État, hein, puisque c'est ses opposants à elle qui ont fait le coup d'État. Mais elle fait partie des personnes qui ont cristallisé un petit peu la population, et notamment l'armée, hein, puisqu'elle s'est imposée comme... comme candidate à la succession de son époux, et alors qu'elle ne représente finalement pas grand-chose, elle n'est pas soutenue par beaucoup d'habitants du Zimbabwe, et bon, et puis surtout, c'est une espèce de monarchie qui se perpétue, et les Zimbabwéens avaient pas l'air très intéressés par cette nouvelle monarchie présente au Zimbabwe. Alors, faut savoir quand même que le déclencheur aussi, c'est le 6 novembre, lorsque le vice-président Emmerson Mnangagwa a été limogé par Mugabe. Quelqu'un qui s'occupait de l'armée au sein de l'État. Et forcément, c'est un peu par lui qu'arrive ce coup d'État. On n'a pas de preuves, on ne sait pas qui est derrière. Mais bon, on sait qu'il a de très grands liens avec les hauts gradés militaires. Qui sont souvent issus, d'ailleurs, comme Mugabe, de la lutte pour l'indépendance. Donc, ils se connaissent depuis très longtemps. Et on sent que c'est ça qui a lancé cette idée de coup d'État. Alors, on rappelle, hein, c'est arrivé mardi soir, les militaires sont passés à l'action, ils se sont positionnés dans certains points stratégiques de la capitale, ils sont allés au Parlement, ils ont emprisonné, hein, parce que c'est de ça dont il est question, Mugabe. Alors il n'est pas dans une prison, il serait à son domicile, mais il n'a pas le droit de sortir. Les infos qu'on a, c'est Jacob Zuma, le président sud-africain, qui les donne. Alors, quand même, aux dernières nouvelles, il s'oppose à beaucoup de choses, notamment Mugabe, notamment à la médiation qui avait été lancée par un prêtre catholique, Fidelis Mukunori. Alors on n'a pas plus d'informations sur ces négociations, ces discussions, ces médiations, mais on sait que, donc comme je le disais avant, l'idée c'était d'organiser une transition politique en douceur et de mettre de côté la famille Mugabe, en tout cas le mari et la femme. Alors, les bruits courent quand même, et c'est pas que des bruits, il y a aussi des documents qui ont été consultés par certaines agences de presse, qu'en fait ça fait plus d'un an que l'opposition se prépare, que cet après-Mugabe est organisé, notamment par l'ancien vice-président Mnangagwa, et par d'autres, notamment des militaires. Donc c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça du jour au lendemain. A priori, les bruits courent que ça serait organisé depuis pas mal de temps. Bon, il y a eu la réunion aujourd'hui de la SADC, on n'a pas encore eu d'écho. Bon, les Zimbabwéens y croient pas. Ils croient pas aux instances qui existent en Afrique, tout simplement parce que aux élections de 2013, l'opposition, la société civile, beaucoup de gens ont demandé qu'il y ait des inspections parce qu'il y avait de la fraude aux élections. Et la SADC a rien dit, a soutenu Mugabe, le président sortant tricheur. Donc ils n'ont pas beaucoup d'espoir là-dessus, on l'a bien compris, la SADC va soutenir son ami Mugabe. C'est pareil pour les autres instances. De toute façon, pour l'instant, seul le président namibéen a émis ces derniers temps un avis négatif sur Mugabe. Il n'y a que lui, tout le reste, soit ça se tait, soit ça dit non, il est élu, point, même malgré toutes les tricheries du monde. Donc voilà où on en est. Aux dernières nouvelles, il refuse de démissionner, Mugabe. Alors c'est pas le seul qui a été arrêté, il y a aussi des gens proches de lui qui ont été arrêtés, notamment a priori le ministre des Finances, de l'Éducation, de l'Administration Territoriale. Alors c'est pareil, c'est que le Jacob Zuma qui donne les infos, donc on sait pas ce qui est fiable ou ce qui est pas fiable. En tout cas, vraisemblablement, aujourd'hui, toute la journée, c'est des négociations avec Robert Mugabe pour lui faire abandonner le pouvoir, pour qu'il donne sa démission et qu'une transition se mette en place. Les militaires garantissent qu'ils lâcheront, qu'il y aura une transition démocratique. On y croit à moitié tant que c'est pas arrivé. Voilà la situation aujourd'hui au Zimbabwe. On notera quand même que même si c'est un coup d'État, quelque part, c'est pas une mauvaise idée de se débarrasser enfin de la famille Mugabe, à condition que la transition soit vraiment démocratique.
Alors on va partir dans un autre pays qui a quelques problèmes en ce moment, c'est le Liban, on en a un petit peu parlé la semaine dernière. Je vous rappelle les faits, nous apprenons le 4 novembre que M. Saad Hariri démissionne de sa fonction de Premier ministre et il le fait d'Arabie Saoudite et non pas de Beyrouth au Liban. Démission qui surprend tout le monde. Il explique, M. Hariri, qu'il y a une mainmise de l'Iran et du Hezbollah, qu'il a peur pour sa vie. Et du côté soit du Hezbollah, soit de l'opposition, soit du président libanais M. Aoun, que en fait les autorités saoudiennes détiennent M. Hariri et l'ont forcé à démissionner. Dans le communiqué quand même officiel du président libanais, on parle de prise d'otage, d'agression contre le Liban, son indépendance et sa dignité, je cite. Donc c'est quand même des termes extrêmement forts, il faut bien voir dans quelle situation le pays est actuellement. Et puis il y a la France au milieu. Alors au tout début, on entend l'Élysée qui dit que ça serait bien quand même que M. Hariri rentre au Liban. On entend le président dire que vraiment il faut qu'il rentre, qu'il puisse s'exprimer. Et puis on a Édouard Philippe qui à l'Assemblée nationale fait aussi des déclarations pour dire qu'il doit retourner librement dans son pays. Et puis on a M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui explique aussi que ça serait bien que la crise elle puisse se résoudre si M. Hariri y rentre. Et puis, ça y est, cette annonce aujourd'hui, on est prêt, la France, à accueillir M. Hariri, ici. Alors, on ne parle pas d'exil, hein, mais on parle quand même d'un accueil. Et puis, tout ça est validé, M. Saad Hariri devrait arriver en France d'ici samedi. Alors, il faut bien se rendre compte que M. Hariri a un appartement en France, hein, comme il a un appartement en Arabie Saoudite, ou une maison, je ne sais pas. C'est pas un réfugié sans toit, c'est une famille qui est riche.
Des millionnaires.
Et ils ont du pognon, donc on n'a pas un petit réfugié qui arrive accueilli par la France. Nous avons un monsieur riche qui est donc accueilli. Alors, la question est maintenant de savoir si c'est de l'ingérence, de la médiation, de la pacification de la part de l'État français, qui aime bien mettre son nez hein, dans les affaires du Liban. Il faut dire qu'historiquement... il y a un petit peu quand même du passif, il faut dire aussi.
La France a géré le Liban au début du XXe siècle, suite aux accords qui avaient partagé la région entre les Anglais et les Français.
Donc on se rend bien compte qu'il y a eu une tractation entre le moment où l'Élysée a déclaré que ce serait bien que M. Hariri rentre dans son pays, le fait que M. Le Drian est allé rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite, M. Mohamed Ben Salman, pour discuter un petit peu de tout ça. Donc il y a eu tractation, et puis finalement il y a cette annonce, on accueille donc le réfugié Saad Hariri, alors que M. Hariri, dimanche dernier, était sur sa chaîne de télévision. Et oui, M. Hariri a une chaîne de télévision qui s'appelle El Moskalbal, ou la chaîne de télévision Future, on l'appelle aussi. Il a expliqué qu'il était libre, qu'il pouvait voyager comme il l'entendait et qu'il allait rentrer au Liban bientôt. Bon, il semblerait que bientôt... ça ne soit pas pour tout de suite. Reste que du côté de M. Aoun, le président libanais, on refuse cette démission tant que M. Hariri n'est pas rentré au Liban pour annoncer ça officiellement.
Oui, alors il faut savoir quand même que Aoun et Hariri sont des opposants politiques. Aoun, il représente une certaine partie des chrétiens libanais, mais il est allié au Hezbollah dans certaines élections.
Mais pas toujours.
Mais pas toujours, mais quand même assez régulièrement. Et donc le Hezbollah est en chiite, Hariri est en sunnite. Voilà, il y a un petit peu des conflits, des oppositions.
Là, moi, je veux bien croire que du côté des Libanais, il y a un peu un ras-le-bol, une lassitude. Il faut dire qu'encore une fois, le Liban se retrouve pris en étau, finalement. Cette fois, c'est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les sunnites, les chiites. Le Liban, je vous rappelle, c'est un pays contrasté. Hein,
oui, enfin bon, ils ont quand même beaucoup
en termes de
subi
communauté.
De l'occupation iranienne, enfin syrienne, en fait.
Syrienne,
donc, avec l'Iran
voilà.
Derrière.
Mais ça a toujours été un grand bazar politique, il faut quand même aussi le rappeler. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 ans de vacances présidentielles, hein, quand même, hein, jusqu'à l'arrivée de M. Aoun. Donc c'était quand même encore un grand bazar. Donc là, il y a encore une idée que le Liban va servir de machin au milieu d'un conflit dans lequel, effectivement, le Liban a un parti pris, parce qu'il y a le Hezbollah qui est toujours un gros problème, hein, finalement, au Liban. Hein, et qu'il y a quand même des Libanais et des Libanaises qui ont envie de paix à un moment. Et que les Saoudiens sont en train quand même de jouer un jeu qui met quand même pas mal le bazar partout aussi, il faut le dire, dans les pays arabes. Voilà, donc il y a une ingérence un petit peu de tout le monde. On espère que les Libanais et les Libanaises ont au moment un mot à dire aussi dans tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. On attend de savoir si Monsieur Hariri va un jour rentrer au Liban. Moi, je propose qu'on lance des paris sur la question parce que rien à gagner.
Alors là, on va en Pologne cette fois-ci, pays beaucoup moins ouvert que l'Iran, qui accueille aucun réfugié, contrairement à l'Iran qui accueille des millions de réfugiés depuis des années. La Pologne qui, à travers la voix de la ministre Beata Szydło, s'est exprimée il y a, la semaine dernière, on va dire, puisqu'elle a elle est attaquée, hein, enfin c'est pas elle qui est attaquée, c'est le gouvernement polonais est attaqué sur aux mesures, suite aux mesures, on va dire, de recul de la démocratie, que ce soit au niveau des médias ou de la justice, qui sont passées ces dernières années en Pologne. Elle a dit, je cite, puisqu'il y a des bruits qui courent que la Pologne, peut-être, bon, faut qu'elle sorte de l'Europe, elle dit « la Pologne appartient à l'Union Européenne et l'Union Européenne appartient à la Pologne ». Bon, d'accord. Elle dit il n'y a pas de polexit. Donc le polexit, hein, c'est si la Pologne se barre. Bon, bref, elle est coincée. Elle continue. Nous avons annoncé que nous ferions de notre pays un pays plus sûr, que nous poursuivrions les intérêts de la Pologne dans l'Union européenne, que la force de la politique étrangère polonaise serait d'adopter une position solide dans la coopération régionale qui reflète les attentes et les ambitions des citoyens de Pologne. Nous tenons bien ces promesses. Elle est contente. Elle veut rester dans l'Europe. Bon, ok. On se rappelle que hier, au Parlement, justement, des discussions autour d'une résolution visant à engager une procédure d'infraction sans précédent, qui se dit sur les violations de l'état de droit en Pologne. Cette résolution a été votée hier sans aucun souci, donc on espère que c'est les premiers pas vers les sanctions. Et ce serait une première en Europe qu'il y ait des sanctions contre un pays qui a un recul démocratique important, et très très important. Et comble de tout ça, faut savoir quand même que le président Andrzej Duda peut bloquer ces fameuses lois de recul antidémocratique, hein, qui réforment notamment la justice. Sauf que il va pas le faire. Sauf qu'il est comme les autres, il est ultra à droite, voire plus, si affinité. Et justement, on va revenir sur la manif de samedi. Hein, on était le 11 novembre, il y avait une énorme manif à Varsovie. Une manif avec des slogans racistes, fascistes, 60 000 personnes qui défilent, et ça fait très très peur. Alors, ils défilent en... Alors, c'est la droite chrétienne. Alors, ils sont orthodoxes, hein, la droite, on va dire, orthodoxe polonaise, qui défile avec des slogans du style « le sang propre ». La suprématie, avec des idées de suprématisme blanc, alors sang propre, hein, c'est, on mélange pas le sang des Polonais, le sang des blancs polonais, à ce sang des immigrés. En gros, c'est ça. Et il y a même des appels à, je cite un des slogans, prions pour un holocauste musulman. C'est énorme, hein. Bon, ça va très très loin. Et alors, dans cette manifestation fasciste, ressort comme d'habitude, des slogans antisémites. Parce que la Pologne, malgré 90% de la communauté juive massacrée par les nazis et leurs amis polonais, eh ben il y a encore des antisémites alors qu'il n'y a presque plus de juifs en Pologne. Et on entendait des slogans qui disaient « Il faut chasser le judaïsme des couloirs du pouvoir ». Alors avec le parti au pouvoir, là, qui a le parti droit et justice, parti d'extrême droite, on voit pas bien où il y a des juifs dedans, et encore moins, alors tous les propos antisémites sont toujours basés sur des trucs faux, et la Pologne ne fait pas exception à la règle. Donc on a vu ces 60 000 néo-nazis, fascistes, patriotes, comme le dit le gouvernement. Alors c'est l'excuse un peu du gouvernement, disait non mais regardez, d'accord, il y avait des fachos, mais il y avait aussi des familles, donc en fait c'est les fachos, c'était minoritaire, c'était juste un petit groupe. Non, en fait c'est, et même ces familles là ce sont des mouvements d'extrême droite très proches des idées des nazis, hein. La Pologne a mal fait son travail de dénazification a priori, en tout cas au niveau des idées, et il y a une énorme inquiétude quand même devant la dérive du gouvernement polonais. Alors c'est pas le seul gouvernement d'Europe de l'Est qui pose problème du côté des dérives d'extrême droite, mais là ça va très très loin, et c'est la plus grosse manif qu'on ait vue depuis très longtemps avec autant de slogans en mettant en avant la race blanche, le non-mélange du sang, l'assassinat, la demande d'assassinat de tous les musulmans, enfin des choses comme ça, et de chasser tous les juifs, bien évidemment. C'est quand même totalement horrible. Donc la Pologne fait un grand pas en arrière et se rapproche de 1939-45. Et on espère que ce qui va être décidé en Europe va lui mettre un coup de claque, parce qu'il faudrait quand même arriver à stopper ces choses horribles qui se passent un peu partout, qui se passent certes pas très loin de Radio Canut non plus, mais à moindre ampleur quand même. Ça nous rassure encore un petit peu.
Alors on va partir aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'état de l'Ohio, pour vous parler donc de ces états qui assassinent, c'est-à-dire qui pratiquent la peine de mort. Et je vais vous parler d'Ava Campbell, 69 ans, qui devait ce mercredi être mise à mort, assassinée donc par l'état de l'Ohio. Alors il a été condamné, Ava Campbell, à la peine de mort pour le meurtre d'un homme de 18 ans en 97. Bon, pour vous raconter un petit peu son histoire, il fait partie, Ava Campbell, de ces criminels qui ont un peu la violence chevillée au corps, si vous me permettez cette expression. Ses avocats ont rappelé à de multiples reprises qu'il avait été élevé par des parents alcooliques et violents, et qu'a priori il en avait gardé une certaine habitude, malheureusement. Ouais. Il a été reconnu coupable d'un premier homicide, il a purgé 20 ans de prison pour ça, et puis il est en liberté conditionnelle, et en 97 il est arrêté pour un vol accompagné de circonstances aggravantes. Je vous disais, hein, chevillée au corps, la violence, et puis il, à ce moment-là, il est emprisonné, il feint une paralysie et puis il arrive à se barrer, à s'enfuir. Il, là-dessus, il braque une voiture et il tue donc Charles Dials, 18 ans, qu'il avait pris en otage. C'est comme ça qu'il est donc condamné à mort en 90, enfin pour cette action en 97.
C'est pas un mec très fréquentable.
Ah bah non, mais
il aurait besoin d'un peu de travail médical et psychologique,
d'accompagnement, en tout
voilà,
cas. Bon.
Pour essayer de sortir de cette violence.
Toujours est-il qu'aujourd'hui il souffre d'une grave insuffisance pulmonaire. Il a 4 traitements en cours. Il a une assistance respiratoire au quotidien. Il a une poche de colostomie. Il peut pas se déplacer sans déambulateur.
Non, mais il est au bout du rouleau. Là.
Il a certainement un cancer des poumons et il a été emmené hier en fauteuil roulant jusqu'à la salle d'exécution. C'est magnifique, hein, quand même, la peine de mort. Et alors, ce qui était très très chouette, non mais parce que là, ça a l'air horrible comme ça, quand même, de finir...
C'est quand même assez horrible.
Comme ça. Il faut savoir que l'état de l'Ohio, dans sa gentillesse, dans quelque chose de profondément bon, vous savez, un truc humain au fond, des gens qui décident certaines choses, l'État avait décidé de fournir à Ava Campbell un oreiller spécial pour l'aider à respirer le temps de son exécution. C'est-à-dire, c'est un truc qui lui permettait d'avoir une partie du corps un peu surélevée, vous voyez. Et ce qui faisait que ça avait une forme un peu biseautée, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc, c'était placé sur le lit, là où il était sanglé, en attendant la mise à mort. C'est humain, tout ça.
Hein, oui, oui. Non,
l'aider à vivre.
Ils accompagnent un petit peu. Contrairement à la Chine, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, où là, on ça coupe va, la tête, on tire une balle dans la tête.
Ça s'emmerde pas.
Là, on fait un petit peu attention.
On
sauf qu'ils n'y sont pas arrivés.
Et ouais. Et donc, il est toujours vivant, hein, Ava Campbell.
Ouais, ouais.
Voilà. Ils ont essayé de le piquer.
Ça ne doit pas être facile pour lui. Hein.
Ah non, mais il est au bout du rouleau, il est super malade.
Voilà. On dit on va te tuer et puis il revient dans sa cellule.
Ils ont essayé pendant un certain nombre de temps de lui poser donc une perfusion pour la substance.
De trouver une veine.
Ouais. Ah, ils en ont pas trouvé dans les bras, dans les jambes. Pff, pas marché.
En fait, il est tellement amaigri et malade qu'ils n'arrivent pas à trouver de veine. Ouais.
Donc, il y a une nouvelle date d'exécution qui va être fixée, bien évidemment. Hein, l'état de l'Ohio ne va pas lâcher l'affaire, il faut bien le dire.
Ils sont quand même un peu bêtes parce qu'il va mourir, ce gars. Pourquoi pas le laisser
parce
tranquille.
Parce que c'est le principe de la justice de vengeance,
mais tout à fait.
Qui se pratique beaucoup aux États-Unis d'Amérique. On va se venger, donc on va exécuter, et comme ça, le monde sera mieux et il sera meilleur, bien évidemment, puisque la peine de mort amène un plus grand savoir-faire à l'humanité qui se porte mieux derrière, c'est bien connu.
Ouais, c'est, les États-Unis le démontrent tous les jours, hein, ils assassinent officiellement comme ça beaucoup avec la peine de mort, et pourtant ils ont une criminalité ultra élevée, comme quoi hein, ça marche pas bien la peur de la peine de mort.
C'est pas comment ils vont faire vu que son état s'aggrave pour trouver une veine la prochaine fois, peut-être qu'avec un deuxième oreiller spécial, je sais pas. Enfin, j'ai l'air un petit peu sarcastique, mais excusez-moi, c'est quand même très très moche tout ça.
Ah ben, on va parler de mort encore avec cette rubrique Le Travail Tue et deux informations. La première, c'est une étude qui a été publiée ce mardi qui estime les coûts des cancers professionnels en Europe. Donc la facture est relativement lourde quand même, c'est entre 270 et 610 milliards d'euros, donc on est bien en milliards d'euros sur l'ensemble de l'Europe, ça représente entre 1,8 et 4,1% du produit intérieur brut, du PIB. Grosso modo, l'étude nous explique qu'il y a 190 000 cancers qui sont déclarés en Europe et dont l'origine est liée au travail. Alors, comment ils ont fait? Ils ont pris 25 agents cancérogènes et des situations de travail qui entraînent des cancers, parce qu'il n'y a pas que les produits chimiques qui entraînent des cancers. Donc ils ont pris par exemple les vapeurs diesel, les poussières de bois qui entraînent notamment du cancer du larynx, différentes molécules pétrochimiques super sympathiques, la fabrication notamment ce qui intervient dans la fabrication d'emballages, du plastique qui sont utilisés dans l'industrie automobile, tout ça, l'arsenic aussi ils ont pris en compte, les dioxines, ce qu'on trouve encore et on en a trouvé beaucoup dans le monde du travail il y a quelques années, il y a beaucoup moins maintenant, et puis les postures du style de travail de nuit, on rappelle que ça favorise le cancer du sein chez les femmes, l'exposition aux différentes fumées, notamment la fumée de tabac. Alors, ils ont calculé après le coût lié. Alors, les coûts sont répartis en deux types de coûts, les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, c'est lié directement au traitement du cancer, l'hospitalisation, les chimios, les soins palliatifs, qui sont directement dépensés par le malade et ses proches et par les systèmes de santé. Et les coûts indirects, qui sont liés à la perte de productivité liée aux arrêts de longues maladies. Donc ça, c'est des coûts qui incombent aux entreprises, qui ont pourtant rendu malades les salariés, mais c'est pour démontrer que ça, en fait, sur le long terme, ça leur coûte de l'argent aux entreprises. Bon, des fois, elles se débarrassent des salariés avant, certes. Donc voilà, sur les pertes de cotisations sociales aussi, liées à la mort prématurée des travailleurs et des travailleuses. Bon voilà, ils ont fait tout un calcul et ce qui donne ces chiffres faramineux de 270 à 610 milliards d'euros chaque année. Là, ça fait quand même très peur. Et ce qu'ils expliquent aussi, c'est que tous ces cancers, on aurait pu ne pas les voir. Parce que tous les produits cancérigènes utilisés, notamment les vapeurs de diesel, donc là c'est les gens exposés entre 1966 et 2005, on pouvait les protéger. Mettre moins de vapeur de diesel et puis surtout mettre des masques, des choses comme ça. Sur plein de choses comme ça, il y avait des solutions à tout en fait. Alors certes, le travail de nuit, il n'y a pas de solution. Dans certains métiers du style les services de sécurité, enfin les services d'urgence là, qui sont là pour dépanner en cas de coupure d'électricité, en cas d'accident de la route, en cas de maladie la nuit, enfin tous ces services là. Mais le problème c'est que le travail de nuit il est répandu dans d'autres secteurs où là il y a possibilité d'arrêter ce travail de nuit. Et donc ce qui nous explique c'est que ces 100 000 morts par an pourraient être évitées et pourrait faire économiser énormément d'argent à la société en général. C'est-à-dire, alors, il faut savoir que le coût est supporté en grande partie par les salariés, à travers leur cotisation sociale et à travers leur propre argent, parce qu'ils sont obligés de changer de vie, des choses comme ça, parce que effectivement, souvent, les entreprises fuient leurs responsabilités et n'assument pas du tout la responsabilité d'avoir rendu malade, voire tué ses salariés. Donc voilà, c'est une étude intéressante, elle est disponible, c'est une étude qui est en anglais. Elle est très détaillée, vous pouvez voir tout ce qui est expliqué dedans. Et puis toujours dans le travail dessus, on va parler d'une grosse étude qui a été, c'est la deuxième, qui est faite par Amnesty International, qui s'occupe du respect des droits de l'homme en lien avec le cobalt et la République démocratique du Congo. Donc le cobalt qui sert pas mal à la fabrication de batteries, et batteries de téléphones portables, de voitures électriques, de choses comme ça. Et la République démocratique du Congo est un pays très important dans l'extraction du cobalt, d'où voilà ce rapport autour du cobalt en RDC. Alors on apprend dans ce gros rapport que les géants industriels, les multinationales, ne font pas le nécessaire face aux allégations de travail des enfants, notamment dans les chaînes d'approvisionnement en cobalt pour les batteries. Puisqu'il faut savoir que les deux gros problèmes sont le travail des enfants, qui est très développé en travail individuel, en fait, par famille, c'est un truc un peu bordélique, l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. Alors ça, c'est le premier truc qui est dénoncé, c'est le travail des enfants. Et le deuxième, c'est toutes les maladies, notamment les graves affections pulmonaires qui touchent donc les enfants, mais les adultes travailleurs aussi, sans parler des accidents même mortels qui ont lieu dans ces galeries qui creusent comme ça, à main nue hein, quasiment, pour récupérer ce cobalt. Qui est ensuite en général livré à une entreprise chinoise très implantée en République démocratique du Congo, qui s'appelle Yuahu Cobalt. Et à la fin, ça va atterrir dans les produits des multinationales. Donc cette enquête a établi un classement des géants du secteur dans lequel on retrouve des gens très connus, Apple, Samsung, Dell, Microsoft, BMW, Renault et Tesla, par exemple. Tesla, le fabricant de voitures électriques. Alors, le rapport montre qu'il y a quand même des entreprises qui ont fait des progrès, mais que ça va jamais très loin et qu'il y en a plein qui font rien. Alors, le rapport rappelle notamment que les premières enquêtes qui datent du précédent rapport, 2016, avaient montré que le cobalt extrait des mines par les enfants et les adultes dans des conditions relativement épouvantables est utilisé donc dans les chaînes d'approvisionnement de certaines des entreprises les plus connues au niveau mondial, que je viens de vous citer, et que suite à ce premier rapport, Amnesty avait pris contact avec ces entreprises. Et ils s'étaient rendu compte que beaucoup d'entreprises ne savaient même pas d'où venait le cobalt qu'ils achetaient. Donc ils se posent aucune question sur l'origine des produits. Alors, on le savait déjà pour d'autres produits, et là sur le cobalt, c'est très flagrant. Alors on sait que, suite au premier rapport, la République démocratique du Congo a créé une commission chargée d'apporter des réponses à la question du travail des enfants, notamment dans le secteur minier, élaborer soi-disant une nouvelle stratégie internationale visant à éliminer ce travail des enfants, améliorer les choses. Sauf qu'en fait, on a l'impression que... ben, il se passe pas grand chose. Il y a eu un effet d'annonce du gouvernement, mais que c'est pas allé plus loin que ça. Donc aujourd'hui, la nouvelle enquête fait le bilan. Alors, on notera des progrès. Par exemple, Apple, c'est devenu la première entreprise à publier les noms de ses fournisseurs sur le cobalt. Donc on sait qui fait. Par contre, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Dell et HP ont aussi fait quelques petits efforts hein, sur les filières d'approvisionnement en demandant tout simplement à Yahoo Cobalt de dire d'où ça venait. Et quand ça venait du Congo, de quelle mine ça venait. Parce qu'ils veulent, il faut savoir de quelle mine ça vient pour qu'on puisse y avoir des enquêtes. Pour les autres entreprises, par exemple Microsoft ou Lenovo, là... a priori, ils n'ont pas fait grand-chose. La deuxième problématique, c'est que même s'ils font quelque chose, eh ben on ne sait pas le résultat. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, pour Apple, qu'ils ont identifié de quelle mine était extrait le cobalt et qu'ils sont allés faire des évaluations. Par contre, ils ne les publient pas. Du coup, on ne sait pas s'ils se rendent compte de choses, ben s'ils font quelque chose pour faire améliorer les situations. Donc pour l'instant, ça ressemble beaucoup à de l'hypocrisie généralisée. Et puis, la dernière partie du rapport, c'est un chapitre complet qui s'appelle « La face sombre de la technologie verte » et qui pointe notamment certains constructeurs automobiles qui développent la voiture électrique, c'est-à-dire nucléaire, on le rappelle. C'est notamment Renault et Daimler qui sont pointés du doigt. Alors, comme le dit le rapport, ils ont des résultats particulièrement mauvais. Et le rapport dénonce des zones d'ombre dans la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, a priori, ils en ont rien à faire de d'où vient le cobalt et comment il est extrait. Que les enfants travaillent, ils en ont rien à faire. Que les enfants et les adultes meurent dans des accidents de mines, ils en ont rien à faire, etc., etc. Alors l'ONG, Amnesty International est allé plus loin que ça. Ils ont contacté à travers une lettre ouverte le PDG de Renault, Carlos Ghosn, en lui demandant de faire quelque chose. Bon. Il n'a pas répondu. Soit il veut rien faire, soit il prend son temps en se disant, bon, quelques enfants de moins qui vont mourir d'ici quelques jours, c'est peut-être pas très grave. On attendra. On fera peut-être quelque chose. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas répondu, donc on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Enfin voilà, c'est pour rappeler que derrière les batteries qu'on trouve dans les téléphones portables, il y a plein de produits pourris, et notamment il y a du cobalt dans les batteries, notamment de voitures électriques.
Alors on va continuer avec les travailleurs et les travailleuses et on va parler des profiteurs cette semaine avec Castorama et Brico Dépôt qui délocalisent en Pologne. Alors je vous rappelle...
Les magasins ? Il faudra aller en Pologne pour acheter des trucs ?
Je vais t'expliquer. Castorama et Brico Dépôt, je vous rappelle que ça appartient à la multinationale Kingfisher, c'est britannique. Et ça fait quand même un an et demi qu'il y a un plan social, hein, ça commence un petit peu à s'aggraver cette chose. Et donc la dernière annonce qui vient de nous tomber cette semaine, c'est la délocalisation des services financiers centraux à Cracovie. On a l'habitude que ça soit que les usines. Mais non, il faut savoir que de plus en plus, on a aussi les cols blancs, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans des bureaux, qui se retrouvent aussi délocalisés, enfin, leur poste, parce qu'eux et elles vont rester là.
Voilà, au chômage.
Ah, l'idée, c'est de faire des économies de main-d'œuvre. Alors, il y a des chiffres des syndicats, puisqu'il faut savoir que la direction du groupe se refuse à communiquer des chiffres précis, car il y a, je cite, des études d'impact en cours. Ah, c'est important l'impact. Donc on parle au siège, dans la banlieue de Lille, de 250 menaces sur les emplois. Donc 250 emplois qui giclent, hein, je vais le dire comme ça. À Brico-Dépôt, on parle de 250 postes qui sont aussi menacés. Enfin, en tout, pour aller plus vite, on parle de 750 postes qui risquent d'être supprimés en France d'ici à 2019. Alors pourquoi ? Bah, pour une raison assez simple. Avant de vous dire ça, je vais vous raconter une petite affaire. C'est comment les syndicats et les salariés ont appris ça. C'est absolument incroyable. Alors, lors du dernier comité central d'entreprise, les syndicats sont donc présents, n'est-ce pas ? Et on leur annonce qu'ils vont regarder une vidéo de Véronique Laury, la directrice générale du groupe. Si vous souhaitez donc écrire à Véronique Laury, je suis sûre que vous pourrez trouver son adresse mail, postale, enfin tout ça, parce qu'elle, elle n'est pas délocalisée. Hein. Elle reste bien là, Madame Véronique Laury, avec un Y à la fin, L-A-U-R-Y. Donc, elle fait une petite vidéo et dans laquelle elle leur annonce tout ça. Clairement, simplement, même pas besoin d'être là. Et alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, dans les autres endroits de Castorama, comme au siège, à Templemar, par exemple, dans d'autres lieux, les gens sont réunis, les salariés, et on leur passe aussi la vidéo pour que tout le monde soit au courant de la bien bonne nouvelle de la délocalisation en Pologne. C'est pas chouette tout ça, il faut que même se souvenir que il y a pas très longtemps, je vous disais que le plan social il est rude quand même chez Casto. C'est les comptables, les assistants RH qui se sont vus virer aussi. Tout ce qui était aussi commande de marchandises, tout ça, il y a eu des systèmes d'automatisation comme pour les payes. Services logistiques de Castorama et de Brico Dépôt ont été rassemblés dans la même filiale. Et alors, donc, pourquoi tout ça ? Est-ce que ça va si mal que ça ? Alors, il paraît que le chiffre d'affaires en France recule précisément de 4,6%. C'est énorme, rendez-vous compte. Mais la multinationale Kingfisher reste largement bénéficiaire. Ouais. Le truc, la vérité que rappellent les syndicats, c'est que Kingfisher a promis de verser 700 millions d'euros de dividendes supplémentaires à ses actionnaires d'ici 2020.
Et voilà, donc des dividendes, ça veut dire qu'il faut augmenter les bénéfices. Et le seul moyen d'augmenter les bénéfices, c'est de taper dans la masse salariale.
Et ben oui, parce qu'on va pas vraiment augmenter les bénéfices, on va juste aller prendre du pognon. Ouais. C'est-à-dire sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Alors, les syndicats racontent aussi que s'il y a des systèmes aussi dans la gestion qui ont l'air de faire des trous dans l'organisation du travail, parce que en fait, la direction accuse des problèmes de fonctionnement qui font que en fait, ça coûte de l'argent globalement à Castorama et Brico Dépôt. C'est que les syndicats ils rappellent qu'en fait, il y a un système informatique qui remplace des gens, des êtres humains, des comptables, et que le système informatique il plante et donc les bugs, et ben en fait, ils coûtent cher parce qu'il faut récupérer ces merdes. Donc vous voyez, en fait, on a remplacé des gens qui font aussi des erreurs par des machines qui font aussi des erreurs, mais qu'il faut quand même que derrière l'être humain revienne. Enfin bon, vous voyez un petit peu le truc, ça s'arrête jamais. Alors évidemment, maintenant, moi je vois venir la galère directe, c'est que Brico Dépôt et Castorama, ça s'appelle Brico Casto demain, et qu'il n'y a plus qu'une seule entité, et que donc on réduise encore le tout. Comme ça, ça coûtera encore moins cher. L'idée, c'est de faire du dumping social, de faire des économies de main-d'œuvre, et qu'il n'y ait donc peut-être qu'une seule enseigne, et donc encore plus de licenciements. Mais l'idée, c'est quand même, heureusement, qu'on arrive à donner des sous aux actionnaires.
N'empêche qu'on notera quand même que Castorama et ton Kingfisher, là, ils vont délocaliser en Pologne, donc ça ne les gêne pas du tout que la Pologne est en train de devenir un pays d'extrême droite. A priori, ils sont attirés par l'extrême droite polonaise, ou par la Pologne tout court, mais qui a vraiment vrillé à l'extrême droite.
Bon, bah, je crois que quand on veut faire du pognon chez ces gens-là,
on regarde pas
on s'en fiche pas mal.
C'est ça. On va parler de Gérard Collomb, vous savez.
Ah, notre ami Gérard.
L'ancien empereur de Lyon. Mais qu'il est toujours
un petit peu quelque part quand même.
Puisque dans le cadre de projet de loi de finances 2018, il y a la députée la France insoumise Mathilde Panot qui a défendu, c'était la nuit dernière, un amendement destiné à ce que le gouvernement rédige, je cite donc le nom de l'amendement, un rapport d'information permettant de chiffrer le coût et les économies permises par la systématisation de la publication en open data des données publiques détenues par les collectivités territoriales. J'explique un peu le bousin. Les open data, c'est toutes les données publiques qui sont mises à disposition des citoyens sous un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable. En général, c'est des tableurs ou des fichiers textes. Il y a, du coup, grâce à cet open data, on va pouvoir et on a accès déjà à certains documents administratifs, les demandes de cas individuels par exemple, pas mal d'infos sur tout ce qui concerne de loin ou de près un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental lié à sa région, enfin toutes les études qui ont pu être faites, enfin voilà, pas mal de données qui sont récoltées par les fonctionnaires et qui au bout d'un moment sont mis à la portée des citoyens. Donc c'est un truc très positif, cette open data. Donc elle dit, elle, bah ouais, mais bon, il faudrait quand même faire un bilan du coût que ça coûte et des économies que ça pourrait engendrer. Je sais pas en quoi ça engendre des économies, mais voilà. Donc elle pose cette question-là, ça débat. C'est toutes les villes et régions au-dessus de 3500 habitants. Le petit village, il n'est pas obligé de faire ses open data. Ah, voilà. Et là, Gérard Collomb, il intervient et il émet un avis défavorable à cet amendement. Lui, il veut pas d'études sur l'open data. Il veut pas savoir ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Je me dis, putain, il est borné ou il le sait déjà, je sais pas. Alors il va dire une phrase qui est incompréhensible. Il dit, le problème que vous soulignez est un problème intéressant auquel il conviendra de réfléchir. Ah, et ça veut dire quoi ça? t'as compris quelque chose, Gérard? Bon. Et après, et c'est là où ça devient énorme, il dit, nous nous apercevons que l'open data a évidemment des avantages. Et nous en avons fait beaucoup dans la métropole de Lyon. Il resitue toujours en plaçant Lyon. Mais elle peut aussi permettre d'avoir des attaques cyber. Alors lui, il dit pas cyberattaque, lui. Hein. Des attaques cyber qui sont extrêmement importantes. Et donc, ce sera un sujet de réflexion globale. Putain, on se dit, mais attends, des cyberattaques avec des documents où on donne des infos statistiques ou des... Il a pété un câble, le gars, là. L'open data, là, c'est pas... Alors, si, il y a quelquefois des algorithmes, mais des algorithmes, comment est traité tel problème quand c'est un logiciel qui le fait, on donne l'algorithme. C'était le cas de l'algorithme du logiciel pour faire la sélection des poursuites d'études après le bac, là. APB, l'algorithme a été publié parce que tout le monde pensait qu'il y avait quand même des trucs louches dedans, l'algorithme est publié, mais enfin ça casse pas trois pattes à un canard, et l'essentiel c'est pas les algorithmes, souvent c'est vraiment des données. On se dit, mais attends, il a dû confondre l'open data avec autre chose ou il y connaît rien. Alors bien sûr il y connaît rien, en fait, ça on le savait déjà, que le numérique pour lui c'est un truc magique dans lequel il y a du business à se faire. D'ailleurs, hein, le seul lien qu'il peut avoir avec le numérique et tout ce qui se développe autour de la numérisation, c'est les multinationales. On sait que Lyon, contrairement à beaucoup de villes, a passé des accords avec Microsoft. Hein, donc il faut payer, alors qu'on pourrait passer en logiciel libre, ce qui ferait des énormes économies. Mais non, lui, il aime que les entreprises, que les multinationales. Donc pour lui, le numérique, c'est les multinationales. Et là, je sais pas, il a dû confondre avec autre chose. Quelqu'un lui a dû lui dire, l'open data, c'est comme ça que les hackers, ils rentrent dans les systèmes et ils vont pirater la bombe atomique française. Et donc, il a raconté cette énorme bêtise en se disant, mais attends, mais voilà. Donc, bon, il a émis un avis défavorable. Et bien, comme les élus de La République en Marche obéissent au doigt et à l'œil à leur chef, ils ont rejeté l'amendement. Alors que c'était un truc con, c'était juste un amendement pour faire un bilan chiffré du coût et des économies de cette open data qui existe déjà. Hein, la loi sur l'open data, elle est déjà passée, elle est déjà faite. Là, c'était juste un amendement. Ouais. Bon, c'est incompréhensible. Soit il est bête, soit il n'y connaît rien, soit il était fatigué. Mais c'est très triste. Alors moi, je pense quand même que globalement, il est tellement obnubilé par je sais pas, mettre en place des mesures liberticides, que dès qu'un truc donne de la liberté, c'est-à-dire donne de l'information à des gens, il est contre. Et là, les open data, effectivement, ça donne de l'information aux citoyens, donc il est contre, il trouve un moyen de bloquer tout ce qui tourne autour, même quand ça a aucun impact. Voilà, je pense qu'il est vraiment, à la rue, hein, le Gérard.
Alors, on va parler d'un sujet, et je vais le dire, c'est du Wauquiez. Oui, ah. Vous savez, c'est devenu un adjectif, c'est du Wauquiez. Il faut savoir que la direction du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes lance un plan de sauvegarde de l'emploi. Pourquoi ? Puisqu'il y a eu la fusion des deux CRT, Auvergne et Rhône-Alpes. Et ça amène donc un plan de sauvegarde de l'emploi avec des licenciements qui seraient effectifs dès le début de l'année 2018. Alors on attend l'avis du comité d'entreprise et la validation par la directe, mais enfin voilà. Et alors moi j'ai eu ces informations par Force Ouvrière, alors c'est pas un syndicat qu'on aime beaucoup dans cette émission, mais il faut bien dire que le communiqué il est quand même pas mal, il date du 10 novembre dernier. FO annonce qu'il va y avoir 16 licenciements, ce qui correspond à environ, hein, donc sur, après il y a d'autres calculs sur les postes et les personnes, mais on peut dire que ça va représenter entre 20 et 30% des effectifs, hein, selon Force Ouvrière, donc c'est quand même beaucoup. Alors dans le communiqué, Force Ouvrière nous explique « Cette mesure serait justifiée par des raisons économiques indépendantes de la volonté du Conseil régional et de son président Laurent Wauquiez. » Plus loin, il y a pourtant quelques mois, lors de l'élection du nouveau bureau du CRT, Nicolas Daragon, Les Républicains, maire de Valence et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué au tourisme, se déclarait très heureux et honoré de présider ce nouveau CRT. Plus loin, l'ambition affichée du nouveau CRT est de se positionner dans le top 5 des destinations touristiques à l'échelle européenne, alors que parallèlement, Laurent Wauquiez annonce une baisse d'un million d'euros de la subvention attribuée au CRT et à un plan social de l'emploi. Force Ouvrière s'interroge donc. Comment expliquer une réduction de dotation pour la structure Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme alors que la région occupe une place majeure en France dans le domaine touristique? Voilà bien la logique Wauquiez, c'est ça, du Wauquiez, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être les meilleurs, d'être dans l'événementiel et en même temps on leur enlève le pognon et on crée donc des licenciements. Alors du côté de du directeur général, monsieur Lionel Flasseur, si vous lui aussi vous voulez lui écrire, hein, Lionel Flasseur, donc on explique que ce sont en fait des suppressions de postes et non pas des licenciements. Hein, ça change tout, il n'y a donc pas des gens qui vont être mis à la porte, licenciés, c'est juste qu'en fait il y aura moins de gens pour travailler. Ah, là, c'est subtil, mais c'est quand même toujours important. Et puis que il faut que la structure aborde une approche responsable. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, je cite. Hein. Et mais d'après Lionel Flasseur, tout va bien se passer puisque il va y avoir des mesures d'accompagnement pour limiter au maximum les conséquences sociales de ce projet. Et donc là, on se dit, mais alors si c'est des suppressions de postes parce que les gens s'en vont et que c'est pas des licenciements, on voit pas bien qui va se retrouver dans l'ennui. Hein. Donc on a l'impression un peu qu'il joue finalement sur les mots, ce monsieur Lionel Flasseur. Et que globalement, Force Ouvrière a raison, il va y avoir certainement des licenciements et que si on n'a pas, de toute façon, les gens vont se retrouver dans une situation de danger, de conditions de travail pourries, vu qu'ils ne vont plus être assez nombreux et nombreuses. Voilà, mais ça aussi, c'est du Wauquiez. On tape un petit peu de partout en ce moment pour faire des économies et on n'a toujours pas compris où est-ce qu'il allait mettre le pognon.
Dans sa poche ?
Chez les chasseurs.
Oui, dans la poche de ses amis. Je
voilà.
Voilà, festival de jazz à Vienne.
Je fais semblant de ne pas savoir, mais ouais. Si, nous savons bien.
Alors, on va parler maintenant énergie et environnement avec les petits mots aujourd'hui. On a eu le droit d'entendre différentes personnes issues du comité central d'entreprise d'EDF, des syndicalistes notamment. Et c'est la dernière, celle qui a eu le droit le plus à la parole dans les journaux, c'est Virginie Neumayer, qui dit, je cite, des coupures d'électricité vont certainement se produire cet hiver. Oh merde, comment on va faire? Et elle dit ça pourquoi? Parce qu'elle dit, bah, s'il y a une vague de froid, la demande d'électricité va exploser. On rappelle que la France est un des rares pays à se chauffer avec l'électricité. Du coup, effectivement, chaque fois qu'il y a un peu de froid supplémentaire, la consommation électrique augmente. Et elle dit, sans que l'offre ne soit capable de suivre. Et elle y va dans son argumentaire. Et donc, il faut que les EDF réagissent et investissent dans les centrales thermiques à gaz et dans le nucléaire. On se dit la classe. Elle dit un peu l'hydraulique, mais en fait, il n'y a pas d'investissement possible dans l'hydraulique. Les gros cours d'eau sont déjà pleins, EDF fait pas de petites micro-centrales, donc du coup, c'est bloqué. Donc elle veut du nucléaire. Alors, c'est pas la première fois que des syndicalistes d'EDF, on se rappelle de CGT Énergie, hein, qui est toujours pro-nucléaire à fond, disent que la solution, c'est le nucléaire. Et qui bloquent, grosso modo, la montée des énergies renouvelables, EDF étant ridiculement à la traîne aujourd'hui. Alors, du coup, après c'est les propos qu'elle a tenus, on se dit, ah bah mince, ça veut dire que les énergies vertes, du coup, c'est dangereux pour la sécurité d'approvisionnement électrique du pays. Alors en fait, quand on se rend compte, quand on regarde un petit peu ailleurs, bah, c'est la problématique, elle est différente en fait. Aujourd'hui, les problèmes de pénurie d'électricité, si jamais il y avait une vague de froid, c'est pas à cause du renouvelable, parce que le renouvelable, c'est rien en France. C'est moins de 10%, et encore, si on enlève l'hydraulique, c'est quelques pourcents le renouvelable. Donc ça n'a aucun impact, le renouvelable, en France. Et puis, de toute façon, quand il fait froid, il y a du soleil, on fait de l'électricité avec du soleil, et quand il fait pas froid, enfin quand il fait mauvais, il y a du vent, et on fait de l'électricité avec du vent. Donc en fait, on arrive toujours à produire si on avait du renouvelable. Le problème là, c'est qu'en fait, sur les 58 réacteurs, il y en a 20 qui sont à l'arrêt chez EDF. Il y en a 20 qui sont en arrêt à cause des problèmes de non-conformité, de sûreté, et quelques-uns pour des phases de maintenance. Mais on fait grosso modo pas de phase de maintenance normalement en hiver, hein, parce qu'on sait que c'est là où il y a la grosse demande. Donc en fait, il y a plein de problèmes, et le problème en France aujourd'hui, c'est le nucléaire, et c'est la sécurité du nucléaire. Et le grain de sable, dans tout ce qui se passe, c'est le nucléaire qui le met. Et si on avait déployé d'autres systèmes, il n'y aurait peut-être pas ce problème d'indisponibilité flagrante. Donc voilà, elle fait la démonstration inverse. Alors, il y a eu différents rapports qui sont sortis cette semaine. Il y a un rapport de RTE qui transporte, on rappelle, l'électricité, qui a étudié différents scénarios, notamment ils sont assez mauvais, hein, les gens de RTE, ils sont pas écolos. Et eux, ils ont un scénario quand même, qui s'appelle le scénario Ampère, qui permettrait de fermer 16 réacteurs d'ici 2030. Sans coupure de courant, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il va falloir peut-être délester certaines grosses industries. On sent qu'ils ont vraiment pas étudié le système à fond, qu'ils y connaissent rien en renouvelable ou pas grand chose, puisque quand on sort de France et qu'on va un petit peu ailleurs, et notamment là, on a des chercheurs américains qui ont publié un rapport sur qui explique tout simplement comment se passer et des énergies fossiles et du nucléaire d'ici 2050. Donc c'est pas des écolos, hein, c'est des scientifiques. Donc ils y vont doucement, hein, d'ici 2050, ça laisse un petit peu de temps. Et ils ont étudié comme ça plein de pays, dont la France. Il y a 139 pays et dont la France. Et ils expliquent que la France n'aurait pas de problème pour sortir du nucléaire à condition d'investir dans l'éolien. Alors dans l'éolien offshore, ça pourrait faire 25% de l'électricité. L'éolien terrestre, ça pourrait faire 30% et le solaire terrestre pourrait faire 35%. Le reste étant l'hydroélectricité et bien sûr en baissant la consommation électrique de 36%, ce qui est assez facilement faisable avec des économies de l'isolation, enfin plein de choses qui sont déjà connues parce que c'est un nouveau rapport fait par ces scientifiques, hein, qui est publié dans une revue, viennent de l'université de Stanford aux États-Unis. Il y a le réseau Negawatt qui s'est beaucoup moqué de Virginie Neumeyer en disant qu'elle ferait mieux d'étudier un petit peu le système, parce que ça fait des années que ces scientifiques bossent sur une sortie nucléaire et ils expliquent comment sortir et du nucléaire et de l'énergie fossile sur 20-25 ans. Donc voilà, c'est juste un rapport supplémentaire qui nous vient des États-Unis, qui parle de plein de pays, mais qui a aussi étudié le cas de la France. Voilà, je vous ai sorti le cas de la France. Et puis, Nicolas Hulot est allé donner une interview au Financial Times pour parler d'EDF aussi. On se dit, mais il peut pas venir en France leur parler directement, faire des choses. Non. On sent qu'il est impuissant, qu'il fait que reculer, et que là, il a trouvé une astuce. Il a un journal anglais qui lui a posé des questions. Il se dit, putain, je vais placer tout ce que je peux sur EDF et sur le renouvelable. Et donc, il dit qu'il faudrait que EDF fasse des efforts. Effectivement, on sait. EDF fait beaucoup d'effets d'annonce, mais freine énormément le développement du renouvelable en France. D'ailleurs, il n'y a presque rien en France par EDF en renouvelable, à part ce qui est historique, c'est-à-dire les centrales hydrauliques qu'EDF possède. Il ne les possède pas tous. D'ailleurs, on notera quand même que suite à cet article et cette interview, EDF a rien dit, rien commenté. Donc voilà, on sent que tout le monde est bloqué. Nicolas Hulot, il ferait mieux de rentrer chez lui, d'abandonner son poste, parce que là, à force, le ridicule va le tuer, hein. Bon, vous me direz, le ridicule, il paraît que ça tue pas. Mais là, quand même, il est très très loin dans la bassesse et dans le seul moyen qu'il ait de parler de ça, c'est d'aller voir le Financial Times et faire une interview au Financial Times. C'est quand même triste ce qui se passe. Et puis, dernière info environnementale. En Jordanie, une bonne nouvelle. Le plus grand camp de réfugiés qui s'appelle Zaatari, hein, qu'on avait vu, qui est un truc de dingue. Hein, il y a 80 000 au moins réfugiés syriens dans ce camp.
Je crois qu'il a baissé depuis. La taille a été réduite. Hein.
Donc c'est 80 000, c'est le chiffre officiel aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, ils produisaient leur électricité avec les moyens du bord, donc des grosses centrales thermiques essentiellement avec du fuel. Ça leur coûtait 430 000 euros par mois. Par mois. Et donc le camp, il est installé depuis 4 ans. Et là, il y a l'Allemagne qui a donné 15 millions d'euros pour financer des panneaux solaires. Ils ont installé, alors c'est une région qui est ultra désertique, hein, ils ont installé 40 000 panneaux solaires qui fournit maintenant de 12,9 mégawatts. Ça leur permet d'avoir 14 heures d'électricité par jour pour ces 80 000 réfugiés. Jusqu'à maintenant, ils avaient que quelques heures d'électricité par watt, par jour. Donc voilà, un énorme progrès, et tout ça grâce à du solaire. Et comme le dit le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, maintenant que l'investissement est fait, ça ne coûte rien. Puisqu'effectivement, le renouvelable ne coûte plus une fois que c'est installé. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Je ne parle pas de Three Mile Island, j'avais prévu d'en parler. Mais voilà,
c'est une autre fois.
Voilà, et on va faire un petit agenda rapide.
Eh bien, je t'en prie, fais-le.
Donc j'ai deux, trois choses. C'est ce soir, à la MJC du Vieux-Lyon, une rencontre débat autour de la lutte contre la 45, cette autoroute on espère ne sera jamais construite, mais dont les débats alimentent encore l'actualité et la justice, parce qu'il y avait une action en justice encore mercredi dernier. Donc voilà, c'est à maintenant, c'est dans une minute, à la MJC du Vieux-Lyon. Il y a apéro, repas à prix libre et discussion autour de la 45. C'est organisé par Habitat et Paysages et par Graines d'Anard. Sinon, dans le cadre du Novembre Libertaire, une rencontre, débat autour de la colonisation du savoir, notamment du vol des différents savoirs par les différents colonisateurs. Ça a lieu à la Griffe, samedi, de 15h à 19h, si j'ai bien noté. Donc voilà, pour parler de la colonisation du savoir, notamment par exemple l'histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde, c'est-à-dire de l'Amérique, qui a été volée par les conquistadors et autres Européens. Et puis pour terminer, une projection débat à Lyon 3 qui s'appelle Éthique et prison. Il projette comme film Fait sortir l'accusé. Il y a un débat sur le sens moral de l'enfermement. Donc c'est organisé entre autres par Papillon et le journal L'Envolé. C'est donc mardi 21 novembre de 16h à 20h30 à l'Amphi Uvelin. C'est au 15 quai Gagneur, c'est l'université Lyon 3, et ça fera l'enchaînement tout de suite.
Puisque nous avons la diffusion Papillon. De Papillon voilà. Ce soir. Et vous retrouverez la petite cuillère la semaine prochaine.
Et
on vous laisse le temps de que l'installation se fasse, hein, puisque tout ça se fait à distance avec la technologie.
Voilà, il faut quelques minutes.
Ah, j'espère quelques secondes pour que tout puisse se mettre en ordre.
C'est des longues secondes en fait.
Ah, ouais. C'est jamais simple, vous savez, la technologie, surtout à Radio Canu, hein, il faut toujours qu'on puisse lancer les affaires. Et c'est quand même une technologie qui nous permet de faire ça et de pouvoir diffuser en direct une autre radio, d'autres camarades, ce qui est quand même vachement bien.
Et il y a d'autres émissions.
Ça fait un moment que ça se fait.
Voilà, de Radio Canu qui sont diffusées ailleurs aussi. Ça marche dans plein de sens.
Ça fait des échanges et c'est plutôt vachement bien. Alors, est-ce que c'est parti ou c'est pas parti ?
C'est parti.
Faites une croix sur vos agendas Hello Kitty.
Alors ça va revenir, il y a eu juste un petit souci technique. L'émission était un petit peu à la bourre sur Radio Audio, donc ils vont arriver d'ici quelques secondes. C'est une fausse manip de ma part, donc je m'en excuse, mais ça va arriver. Là vous avez en ce moment le générique, donc si vous vous rappelez, essayez de chanter le générique de Papillon pour vous mettre dans l'ambiance. Et ça va arriver tout de suite d'ici quelques minutes sur la plus rebelle des radios. Il faut que je meuble, mais je ne sais plus quoi dire du tout. Voilà. Attention, ça arrive. On se log. Il faut se loguer. Hein. C'est le concept. Hein,
C'est le contact de la technologie. Hein. C'est que ça prend toujours un petit peu du temps, surtout quand ça bug. Hein. C'est toujours un peu la galère.
Surtout quand je débranche la prise.
Encore une fois, vous êtes sur Radio Canu, hein, une radio associative avec des bénévoles qui en